Il est pour l'instant 16h37 minutes. C'est notre chroniqueur politique et social, Éric Lantier, qui est maintenant avec nous. Éric Lantier, bonne et heureuse année 2020, mon cher.
Bonne et heureuse année à vous aussi, ainsi qu'à tous nos auditeurs.
Alors, auditeurs de CJMS, auditeurs de CJWI, vous êtes salués par Éric Lantier. Il vous souhaite une bonne et heureuse année. Avez-vous eu de belles fêtes, Éric Lantier?
Oui, disons que dans la période entourant Noël, ça a été plus actif et la période autour du jour de l'an, ça a été une période plus reposante. Donc, j'ai bien apprécié.
Naturellement, comme tous les Québécois. Nous, c'est le contraire. Moi, je suis Québécois d'origine haïtienne, hein? Vous l'avez senti à mon accent, pas vrai? Alors, pour nous, la période festive, là, c'est après Noël, parce que c'est l'indépendance d'Haïti le 1er janvier. Ça, vous le savez, Eric, là.
Mais vous êtes en train de me renouveler la mémoire. C'est une information que j'avais oubliée. Je suis content que maintenant, c'est remis dans mon disque dur mental.
216 ans d'indépendance, mon cher ami, hein?
C'est beaucoup.
C'est quelque chose, c'est pas rien, là. Bon, alors, parce que pour quelqu'un qui nous a déjà chanté, Jesse, hein? Qui nous a déjà chanté, là, comment ça s'appelait déjà, là?
Je voulais... Tout pas gai va bien, la caille papa moi, la caille papa moi, la caille papa moi.
Éric, vous avez été directeur d'école, j'imagine que c'est à l'école hein, que les enseignants ont fait une chorale où ils ont appris cette chanson, parce que moi, je vous dis, c'est loin de moi ça là, toute bagaille va bien là, quand il papa moins.
Mais c'est que j'ai fait partie d'un groupe de musique et on avait été invité dans une église haïtienne. Et là, on a appris un répertoire typiquement haïtien. On a joué 4 ou 5 pièces musicales. Et c'était dans une église où est-ce que tout le monde était habillé en veston-cravate. C'était très cérémoniel, très protocolaire. Et quand on s'est mis à chanter ces chants, les gens se sont mis à danser, à sauter, à bondir. C'était la fête. C'était incroyable. On était émerveillés.
Succès plus foule. Alors, mon cher ami Éric Lantier, parlons de politique. Nous avons un peu de politique, un peu de social, n'est-ce pas? Mm-hmm. Deux sujets cet après-midi. L'avenir du Parti québécois, ça se joue à la faveur d'une course au leadership. Ça va dépendre pour beaucoup de ceux qui vont se présenter. On parle de gens du secteur privé, possiblement, et naturellement, il va en avoir du secteur politique. Comment on peut regarder l'avenir du Parti québécois, surtout dans un contexte où le mouvement indépendantiste est éparpillé, hein?
Oui, bien c'est au mois de février qu'il va y avoir une conférence de coordination entre l'exécutif du Parti québécois, le comité jeunesse, les présidents régionaux. Ils vont s'entendre sur la façon de procéder pour que le prochain chef puisse accéder à la direction du Parti québécois. Maintenant, il y a l'ex-ministre Sylvain Gaudreau, qui est parlementaire, qui représente le Parti québécois dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a officiellement manifesté son intérêt avant les fêtes. Mais il y a d'autres noms qui circulent, comme Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était dans la course en 2016, Richard Bastien, qui est un historien, qui est moins connu par la population, mais qui est connu dans le milieu politique. Et le nom qui fait sourire tout le monde, l'humoriste Guy Nantel.
Ouais. Et qui est très sérieux.
Oui, qui est très sérieux. Moi, je me suis procuré son livre sur sa vision politique. J'ai assisté à son spectacle il y a quelques mois. Et je peux vous dire que c'est un homme qui connaît son affaire. Beaucoup des auditeurs qui nous écoutent présentement ont certainement vu un de ses vidéos lorsqu'il questionne dans ses vox pop qui était le premier ministre du Québec, par exemple, dans les années en 1976, qui est René Lévesque. Des fois, on entend des réponses complètement farfelues, mais on voit que lui est très, très, très bien renseigné.
Une chose est certaine, cette course sera différente de la précédente. Moi, j'appelle la précédente, à moins que je me trompe, celle qui a vu arriver PKP au pouvoir. Après ça, il y a eu un remplacement. Mais dans le fond, lors de la course où PKP a pris la direction du parti, il s'agissait pour le Parti québécois de recevoir un sauveur. Un sauveur oui. était né, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et là, cette fois-ci, on peut pas dire qu'on attend un sauveur, hein?
Non,
c'est ça. Il y a personne qui gagne avant un processus régulier, pas vrai, devant conduire donc à ce choix des membres du Parti québécois.
Oui, parce que le successeur de Pierre-Carl Péladeau, eh bien, ça a été, comme vous le savez, celui qui a été défait aux dernières élections, M. Jean-François Lisée. Et donc, ça a été très décevant pour les partisans du Parti québécois de voir que le successeur de PKP n'a pas été capable de sauver les meubles. Au contraire, le Parti québécois est devenu le troisième parti d'opposition. Et derrière Québec solidaire, c'est pas peu dire. Et à ce moment-là, c'est pour ça que, d'une part, les attentes sont élevées parce qu'on se dit, il faut qu'on retrouve notre statut historique au Parti québécois. Le Parti québécois qui a formé trois gouvernements, qui ont marqué l'histoire par deux référendums, et là, se retrouver à la troisième place dans l'opposition, oh là 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 là, c'est humiliant.
Avec une vingtaine de députés? Avec une dizaine, pardon, que dis-je?
Non, neuf députés.
Ah, mon Dieu! Hey là là! Alors, bon, alors, qu'est-ce qu'on peut prédire pour l'avenir, sinon de remonter le parti, mais avec le mouvement indépendantiste qui traîne la patte, parce que le Parti québécois n'a plus l'exclusivité du mouvement, n'est-ce pas? C'est un peu à droite, un peu à gauche, mais surtout à gauche, n'est-ce pas? Et à la gauche de la gauche, n'est-ce pas, le mouvement souverainiste. C'est pas évident qu'on pourra faire le miracle, n'est-ce pas?
Non, c'est pas évident, spécialement que celui que les Québécois auraient préféré, c'est Yves-François Blanchette, mais puisqu'il a relevé le Bloc québécois, est-ce que lui va quitter le Bloc maintenant qu'il a le vent dans les voiles? Ce serait très surprenant. Et si on regarde le pointage que Sylvain Gaudreau, pourtant, Sylvain Gaudreau est un homme aguerri, on remarque que simplement 4% des gens qui ont été sondés par la firme Léger seraient intéressés à l'avoir comparativement à Yves-François Blanchette qui obtient 13%. Alors, écoutez, ça va être un grand défi pour ce parti souverainiste-là. Et moi, j'ai toujours dit que le Parti québécois devrait changer de nom et trouver une façon de se rallier avec Québec solidaire. Il doit certainement y avoir une façon de se rallier, quitte à embrasser le maximum du programme de Québec solidaire pour recréer un mouvement beaucoup plus dynamique, plutôt que, parce qu'à chaque fois qu'on divise le vote, eh bien, on perd sa chance, sa possibilité, sa probabilité d'aller plus loin.
Mais ça là, c'est un défi quasi insurmontable, compte tenu du fait que Québec solidaire se voit le parti d'avenir du mouvement souverainiste à cause des succès qu'on peut dire quand même. C'est un parti qui a environ une douzaine d'années, n'est-ce pas? Et qui rivalise vraiment sans rougir avec le Parti québécois. Donc, c'est pas maintenant que Québec solidaire va s'effacer pour laisser toute la place au Parti québécois ou pour s'allier même avec le Parti québécois. D'ailleurs, ce qui fait le succès du Parti Québec solidaire, c'est qu'on crache sur les vieux partis et le Parti québécois fait donc partie des vieux partis.
Mmh. Absolument. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un défi qui va être un défi de taille, un défi assez difficile. de rallier les souverainistes, c'est devenu une cause insurmontable. Le seul, à mon avis, qui serait en mesure de le faire à l'heure actuelle, mais qui n'est vraiment pas intéressé, qui ne se lancera pas, c'est Lucien Bouchard. C'est le seul qui pourrait redonner au Parti québécois un élan, et c'est le seul qui pourrait affronter François Legault aux prochaines élections en le regardant dans les yeux. Il serait capable de le défier, il serait capable de vaincre François Legault, c'est le seul, mais il n'est pas intéressé.
Mais vous savez, Éric, il faudrait que Lucien Bouchard réponde d'abord à cette question. Mm-hmm. Lucien Bouchard est-il souverainiste? Oh! Oh là là!
Bon, écoutez, moi je crois que il est certainement autonomiste, ça c'est clair, certainement qu'il veut que le Québec se démarque en Amérique du Nord, devienne une force, non seulement une force politique, mais une force économique. Je crois que Lucien Bouchard voudrait bien que le Québec dispose de beaucoup plus de leviers pour mieux gérer ses ressources humaines, ses ressources à tous les niveaux. Est-ce qu'il est souverainiste? Je crois qu'il l'est. Il l'est parce qu'il a contribué au référendum de 95, mais est-ce qu'il l'est avec autant d'ardeur que certains qu'on appelle les caribous au sein du PQ? Je ne croirais pas.
Là, ça serait une autre démonstration. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que la plupart des souverainistes purs et durs ne croient plus à... Il faudrait que Lucien Bouchard fasse une profession de foi souverainiste et monte les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, hein, avant de se faire pardonner les quelques prises de position de sa part ces dernières années. Cela dit, il y a un autre sujet dans cette actualité qui nous intéresse aussi. On regarde du côté de New York l'ouverture du procès de Harvey Weinstein. C'est à partir de ces accusations qu'on a lancé le mouvement hashtag MeToo. Et qui va donner naissance à moi aussi ici au Québec, et c'est un mouvement sur lequel s'appuie le mouvement souverainiste, n'est-ce pas? Et si jamais ce procès avorte à New York, ça sera un coup dur pour le mouvement souverainiste, n'est-ce pas? Féministe, pardon.
Oui. Oui, tout à fait. Mais à Los Angeles, il y a eu un coup de théâtre. Disons, quand je dis coup de théâtre, il faut le prendre au sens figuré parce que ce sont des faits véridiques. C'est qu'il y a des femmes qui ont porté de nouvelles accusations contre M. Weinstein. Et dès que le procès s'est mis en cours, eh bien, il y a des femmes qui sont sorties dans la région de Los Angeles et pour dire, mais écoutez, nous, on veut déposer des accusations contre lui. Donc, il y a des accusations qui continuent de s'ajouter. Alors, je crois que le cas Weinstein, on n'a pas fini d'en entendre parler, et que même si le procès qui a lieu à New York n'arrivait pas avec une conclusion satisfaisante pour ceux qui l'accusent, eh bien, c'est pas fini. Il va y avoir d'autres procès. Et s'il n'y a pas d'autres procès, son nom va circuler dans l'opinion publique avec toujours ce doute, même s'il ne serait peut-être pas accusé formellement.
Alors, on s'entend, s'il s'agit d'accusations criminelles, ben, on ne peut pas porter plusieurs, on ne peut pas lui faire plusieurs procès si, naturellement, on s'entend aussi que des personnes peuvent porter des accusations, et dans la mesure où il s'agirait de cas distincts, effectivement, il peut y avoir d'autres situations, d'autres cas qui seront pris en considération pour ce qu'ils sont. On s'entend. Mais par contre, à partir d'une certaine jurisprudence qui pourra être établie dans les premiers cas, ça peut décourager la plupart, n'est-ce pas? à porter des accusations et voulant dire que si votre dossier n'est pas plus étoffé que ça, vous n'avez pas beaucoup de chance étant donné que le dossier précédent qui ressemble pas mal au vôtre a été rejeté. Alors, ça risque de d'être un handicap pour le mouvement hashtag MeToo.
Oui, parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont dû laisser tomber leur accusation parce que le dossier n'était pas suffisamment étoffé, les preuves n'étaient pas suffisamment concluantes. Et écoutez, c'est sûr que c'est décourageant pour des femmes qui ont. Si c'est vrai, parce qu'on n'est pas là pour juger de la situation, mais selon ce qui est allégué, du moins, si les événements se sont passés comme ces femmes-là l'ont allégué, eh bien, je peux vous dire que c'est très pénible. Et en plus de ne pas avoir gain de cause, de ne pas savoir que la justice se mette à trancher parce que les accusations ne sont pas fondées selon les mécanismes qui sont en place, c'est certain que c'est décourageant pour des femmes qui auraient subi de tels sévices. Et ça, c'est sûr que c'est décourageant.
C'est vrai qu'il ne faut pas faire le procès, mais il y a des interrogations quand on voit la plupart des femmes vraiment très célèbres. Je regarde... la belle, comment elle s'appelle déjà?
Angelina Jolie.
Angelina Jolie, oui, entre autres, une femme très vive d'esprit et qui a attendu tout ce temps avant de porter des accusations. Effectivement, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas parce qu'on n'est jamais à la position des femmes. Nous sommes des hommes, n'est-ce pas? Nous, c'est un coup de poing qu'on aurait donné, c'est un je ne sais quoi, mais certainement qu'on n'aurait pas laissé traîner des dossiers comme ça pendant des et des années pour faire une sortie au moment où d'autres personnes sortent contre Harvey Weinstein.
Oui, parce que en plus d'avoir commis un acte, il y a toute la pression en disant si je ne m'y soumets pas, ben ça peut nuire à ma carrière, ça peut nuire à ma réputation, ça peut avoir des conséquences. Et il y a tout ce mélange de manipulation, de sévisme, de douleur psychologique qui entre en ligne de compte et c'est ça qui est difficile. Moi, ce que je souhaite, c'est que si tel est le cas, si les faits s'annoncent à être véridiques, mais j'espère que M. Weinstein va en payer la peine parce que ce qu'il a fait subir, si c'est prouvé par les tribunaux, eh bien, c'est vraiment déplorable, c'est malheureux et j'espère que ça va donner une leçon à d'autres qui voudraient suivre ses traces.
Et justement, le Québec regarde ce procès en considération du procès québécois le plus, dans ce sens-là, le plus populaire, n'est-ce pas, pour des situations à peu près semblables avec un homme tout puissant aussi il y a quelques années, n'est-ce pas, qui a été accusé par plusieurs femmes, n'est-ce pas? On regarde, c'est sûr qu'on ne pourra pas appliquer la jurisprudence américaine ici, mais il est certain que si ce procès donne des résultats plutôt négatifs aux États-Unis, de ce côté-ci, ça risque d'avoir des incidences sur la cause célèbre concernant qui on sait.
Oui, tout à fait. Et vous savez... ce qu'il y a de positif dans tout ça, c'est que la cause Weinstein et la cause qui s'est vécue aussi ici au Québec avec le monde de l'humour et tout le monde, le gratin artistique québécois, eh bien, ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a amené des femmes à dire, ben moi, je vais sortir du placard et je vais le dire, je vais le dénoncer, je vais affirmer. Et ça l'a amené une conscientisation à plusieurs égards, puis même pour certains d'être obligés de dire « Wow, je pense que je réalise que mon comportement était inacceptable et doit changer mon approche envers les femmes. » Il y a même des endroits où est-ce que on a dû mettre des règles, par exemple, dans toute la question des parties de Noël, les parties de bureau qu'on appelle.
Mm-hmm.
Et ça l'a amené des éléments positifs, et c'est malheureux parce que ça prend toujours des victimes pour amener une conscientisation, et c'est ce qui est malheureux avec le genre humain.
Et naturellement, il y a un prétexte qui suppose que à un moment donné, il y a certains gestes qui étaient acceptables, qui sont devenus avec le temps, avec l'évolution, inacceptable, et donc ça n'excuse absolument rien ces gestes-là, mm-hmm. Mais c'est quand même une façon de s'exprimer pour dire que si c'était acceptable. On regarde même en France cet auteur, écrivain, qui sera accusé de gestes semblables, n'est-ce pas, sur mineurs, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et on nous dit que la société française ne voyait pas d'inconvénient dans ces années-là. Aujourd'hui, c'est devenu tout simplement inacceptable.
Oui, et c'est tant mieux. C'est mieux que ce soit ainsi. Et c'est pour ça que moi, je crois à une culture d'ouverture, une culture de transparence, une culture de débat, pour que justement, on puisse faire avancer les mentalités et parfois les faire avancer. C'est aller un peu plus à droite, d'autres fois, c'est aller un peu plus à gauche, mais il reste que néanmoins, lorsque des gens parlent, lorsque des gens s'affirment, et en l'occurrence, dans le cas qui nous concerne, ce sont des femmes, eh bien, elles ont contribué à amener d'autres femmes à sortir de leur placard, et ça, je trouve ça très louable.
Et moi, je suis en désaccord un peu avec ce qu'Éric a dit. Il faut aller peut-être un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. Il faut rester juste au milieu. Il faut que Eric soit toujours en mesure de regarder une femme, une belle femme, en lui disant « Madame, vous êtes donc belle. » Ouais. Et que cette femme ne se sente pas agressée outre mesure parce que c'est un compliment. Un compliment reste un compliment, mais jamais aller à gauche ou à l'extrême gauche à toucher la beauté. Il faut jamais toucher, hein, lorsqu'on ne vous accorde pas cette permission. Pas vrai?
Oui, mais il y a des façons diplomates de pouvoir manifester un compliment en disant « Ah, cette robe vous va à ravie. » Alors, à ce moment-là, ça laisse, disons, un bon goût.
Un bon goût, et ça se prend bien comme compliment. Merci beaucoup, Éric Lantier, chroniqueur politique et social, mon cher. On a bien débuté notre année 2020.
Absolument, ça fait un plaisir encore une fois.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Il est exactement 17 heures dans tous nos studios. C'est l'heure d'aller à la pause commerciale. Et au retour, on fera une petite pause musicale. Oui, je pense qu'on a bien besoin avant d'aller à la circulation, à la météo.